Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Ils sont déjà au Panthéon, ces grandes gueules du sport. Fred Weiss, Marc Madiot, Fred Le Canu et Sarah Pitkowski. Ah oui, on a beaucoup débattu sur ce sujet. Alcaraz, Sinner, effectivement, sont-ils déjà tout là-haut, dans le divin, comme dirait Fred Le Canu. Finale à 20h.
Et je garde mon avis, je vais pas baisser mon Panthéon aujourd'hui.
Ah ouais, oh. Bien sûr. En fait, c'est fou, mais...
On peut le faire sortir, parce que c'est...
il avait dit, il ne restera qu'un Fred. Attention,
ouais, c'est bon, j'ai gagné, merci.
À pas de se mettre.
Tu vois, il est déjà dans la contre-attaque. Sur la défensive. Il attend.
Tiens, peut-être que vous irez ensemble d'ailleurs si vous gagnez les deux places. Non, vous pouvez pas appeler les gars. Le jeu des grandes gueules du sport. Vous pouvez gagner vos places pour assister au match qualificatif pour la Coupe du Monde. France-Islande ce mardi à 20h45 au Parc des Princes pour remporter vos deux places. Envoyez France par SMS. France au 7-32-16. Tout de suite, le sport et la politique ne font pas toujours, voire peut-être jamais, bon ménage.
RMC. Le dossier des GG.
La semaine du Tour d'Espagne, la Vuelta, vous savez, a été perturbée par le conflit israélo-palestinien. Vous avez bien entendu des manifestations sur la course, ont parfois interrompu l'épreuve ou carrément annulé une fin d'étape à Bilbao. Le nœud du problème, c'est la présence dans le peloton de l'équipe Israël Première Tech, insupportable pour certains manifestants ou même des politiques en Espagne au vu du contexte dans le Moyen-Orient. La question que je vais vous poser, les GG, c'est le sport peut-il céder face à la politique, c'est un sujet très complexe, mais on sait que la politique s'invite souvent dans le sport. Avant de vous écouter, notre spécialiste cyclisme nous rejoint. Salut Maria Azé.
Salut Georges, salut à tous.
Ouais, on va pas forcément parler cyclisme, là, c'est plutôt c'est dans l'air. Effectivement, c'est de la géopolitique. Non, plus sérieusement, Maria, est-ce que tu peux nous repréciser, parce que c'est important, le contexte et les événements qui ont perturbé la Vuelta cette semaine?
Oui, alors déjà, pour vous expliquer un petit peu, la cause palestinienne est très soutenue en Espagne. Le pays a été l'un des premiers en Europe à reconnaître officiellement l'État de Palestine en mai 2024. Et c'est donc sur la cinquième étape, première en Espagne, puisque la Vuelta est partie d'Italie, lors du contre-la-montre à Figueras, que des manifestants tentent de ralentir la formation Israël Première Tech, qu'ils ciblent tout particulièrement à cause de son propriétaire, Sylvan Adams, milliardaire israélo-canadien, ambassadeur autoproclamé de l'État hébreu, et surtout proche de Benjamin Netanyahou. Le soir même, le patron du Tour d'Espagne annonce que la Vuelta porterait plainte contre les militants, une déclaration qui n'a pas plu à Sira Rego, ministre du gouvernement espagnol, qui lui a répondu en défendant les manifestants. Mais les tensions ont surtout repris cette semaine avec l'arrivée dans le Pays Basque, où les habitants sont particulièrement impliqués dans les protestations. Mardi, les manifestants sont entrés sur le parcours en plein passage des coureurs, entraînant la chute de l'Italien Simone Petilli. Mercredi à Bilbao, à 3 km de l'arrivée, la direction de course décide de neutraliser l'épreuve car trop de manifestants étaient présents sur la ligne d'arrivée. Plusieurs avaient tenté de s'introduire sur le parcours en poussant les barrières un peu plus tôt dans l'après-midi. Le soir, le directeur technique de la course, Kiko Garcia, déclare qu'il n'y a qu'une solution, le retrait de la formation Israël Première Tech, et demande à l'UCI de s'impliquer, sauf que l'UCI ne veut pas risquer un scandale et botte en touche en apportant son soutien aux coureurs de l'équipe et assurant sa neutralité politique. La formation Israël Première Tech publie également un communiqué précisant qu'elle ira jusqu'à Madrid et qu'elle n'abandonnera pas. Depuis, les manifestants sont toujours là et les coureurs ont été bloqués à quelques reprises. Vendredi, c'est le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lui-même qui a félicité sur X l'équipe Israël Première Tech de ne pas avoir cédé à la haine et à l'intimidation. En réponse, le gouvernement des Asturies, région de l'Espagne où la Vuelta passe tout le week-end, décide de boycotter l'épreuve. Dans le peloton, l'ambiance n'est pas meilleure. L'un des directeurs sportifs d'Israël Première Tech a accusé Matteo Jorgensen, coéquipier du maillot rouge Jonas Vingegaard, de publier des messages dans un groupe WhatsApp de coureurs pour inciter Israël à partir. Réponse de l'Américain, parfois les cyclistes, nous sommes dans notre propre monde, mais j'encourage tout le monde à réaliser que des choses plus importantes se déroulent en ce moment. Après une semaine de tension, la formation a pris hier sa première mesure en retirant la mention Israël de son maillot, ne laissant que le sponsor Première Tech, comme elle le fait sur les véhicules de l'équipe, dans le but de privilégier la sécurité de nos coureurs, a-t-elle déclaré.
Merci Maria, tu restes avec nous. Il s'est passé beaucoup de choses, on va en compte dans cette semaine autour de cette histoire. Le sport peut-il céder face à la politique quand on voit ce qu'il s'est passé, ce que Maria nous a raconté sur la Vuelta. Marc Madiot, je voulais commencer avec toi parce que tu étais à Bilbao le jour de l'étape interrompue. Oui. Il s'est passé des choses. Raconte-nous un peu sur place ce que tu as vécu.
Ben le contexte était assez particulier déjà parce qu'on faisait départ-arrivée au même endroit, ce qui n'est pas très courant sur une course à étapes. On est plutôt sur du ville à ville. Et là, d'entrée de jeu sur le lieu de départ, sur le paddock de rassemblement, on a senti qu'il y avait une tension. On a aperçu beaucoup de drapeaux palestiniens. Et on sentait qu'il y avait une tension, une nervosité qui s'installait. L'étape a démarré normalement. On a tout de suite compris qu'il y avait beaucoup, beaucoup de manifestants sur le bord de la route avec des drapeaux, mais de manière plutôt pacifique, même si il y avait un effet de masse assez impressionnant et rare, parce que souvent on a de temps à autre des manifestations sur les courses, mais c'est sur des points ponctuels avec une participation, j'ai envie de dire, assez limitée, qui se limite aux gens vraiment intéressés par le sujet qu'ils viennent défendre au bord de la route. Alors c'est soit un problème syndical, c'est soit un problème agricole, c'est
souvent on le voit sur le Tour de France, on
voilà, c'est des choses entre guillemets assez traditionnelles en termes de manifestations. Là on s'est retrouvé avec un public pro-palestinien très impliqué, très nombreux et massifs sur plusieurs passages de la course. On avait des centaines et des centaines de drapeaux tenus par des manifestants pro-palestiniens. Jusque-là, j'ai envie de dire, on est dans une certaine normalité et dans quelque chose d'assez logique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'anicroche entre le peloton et les suiveurs et les manifestants sur le bord de la route. Donc jusque-là, tout s'est bien passé. Et où la situation a dégénéré, c'est quand on est passé une première fois à Bilbao, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, où là, on a senti une pression très intense, assez forte et assez violente de la part des manifestants qui ont cherché à renverser les balustrades et sont entrés en opposition et en rapport de force avec les forces de l'ordre. Là, on a dit oh là, ça monte d'un cran et ça va être compliqué de terminer la course. Il y a eu une bonne réaction des organisateurs en disant on neutralise, on fait la course, mais on prendra les temps à 3 km de l'arrivée pour éviter une confrontation et un désordre qui aurait pu être catastrophique. Donc j'ai envie de dire les organisateurs ont plutôt bien réagi. L'UCI est resté dans son rôle d'institution. Les manifestants, dans leur large majorité, ont été respectueux de la santé des coureurs. Hormis une ou deux petites anicroches, il n'y a pas eu de débordement excessif de la part des manifestants. Il faut aussi honnête et réaliste. Néanmoins, on sentait cette pression et cette tension qui a été, je trouve, bien maîtrisée à la fois par les organisateurs et l'Union Cycliste Internationale. Derrière, l'équipe israélienne a fait un premier pas en avant en disant on retire le mot Israël de nos maillots et on n'utilise plus le logo Israël sur nos maillots. Je pense que ça va permettre de calmer les choses et d'aller un peu plus loin dans cette course. Mais reste posé quand même, au-delà du problème palestinien, le problème des manifestations de tout ordre qui peuvent avoir lieu sur une manifestation sportive. Alors, dans un stade de foot, c'est plus difficile à réaliser. Sur le bord d'une route cycliste, c'est simple et facile. Et
oui, parce que là, vous êtes effectivement les cyclistes, les coureurs cyclistes, au contact direct avec des potentiels manifestants.
Hier, il y a une autre étape. On voyait l'ascension de Langiru, notamment, avec Vingegaard. On voyait des supporters du cyclisme et pro-palestinien en même temps qui courait à côté des coureurs à 10 km heure puisqu'on était dans une ascension extrêmement difficile. On voyait le drapeau et les deux coureurs au milieu, c'était quand même assez c'était assez flippant.
Ouais, non, mais c'est vrai, on sent qu'il y a
pas eu de, encore une fois, il y a eu l'expression d'un mécontentement fort logique et naturel pour ces manifestants, mais en même temps, il y a eu une forme de respect qui est restée fort heureusement par rapport aux coureurs. Donc, j'ai envie de dire restons raisonnables.
Ouais, il faut rester raisonnable. Fred Weiss, le sport peut-il céder face à la politique? C'est notre débat, mais enfin, c'est la question qu'on pose, mais oui, c'est vrai que c'est un dossier complexe, hein.
C'est ultra complexe et pour globaliser un petit peu, oui, forcément le sport est politique. Moi, j'ai l'exemple de Thomas Hurtel, rappelez-vous, avec ce qui s'est passé sur les sanctions du fait qu'il joue en Russie. En fait, ce qui s'est passé au départ, c'est que l'État français a demandé à la fédération de faire signer une charte aux joueurs de basket français susceptibles d'être sélectionnés par l'équipe de France, comme quoi ils ne signeraient pas en Russie. Donc l'État a imposé sa politique ce qui est normal, c'est notre état, et donc ils ont proposé ça. Et Thomas Hurtel, quand il a signé quand même en Russie, il a été exclu des équipes de France, il ne pouvait plus être sélectionné. Donc quand on me dit que la politique et le sport ne sont pas liés, c'est évidemment lié, parce que ton pays détermine la politique que tu dois appliquer, et s'il considère que la Russie, pour une raison ou une autre, est un ennemi entre guillemets, hein, et évidemment, et ben t'es obligé de suivre cette loi, parce que sinon tu n'es plus convoqué dans l'équipe de France. Donc oui, forcément c'est politique.
Bah, quand on est au milieu effectivement de conflits comme ça, là la problématique sur la Volta, c'est que c'est la sécurité directe des coureurs
qui pouvait être compromise par une mauvaise action de telle ou telle personne. Après, moi je pense que, mais on n'y arrivera jamais, c'est un vœu pieux, je pense qu'il faudrait sanctuariser le sport. Si on sanctuarisait le sport par rapport à tous les événements qu'il y a dans le monde, en se disant au niveau de l'ONU, au niveau du CIO, quels que soient les conflits, quelles que soient les situations, le sport est hors.
Dans les textes, c'est ça, c'est les valeurs universelles.
Mais Sarah, c'est inapplicable, parce qu'on est des sportifs, on est des êtres humains aussi. On vit dans un monde où on est obligé d'appliquer certaines règles.
Oui, là, je répondais à.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement un vœu pieux, et dans l'absolu,
c'est très bien. C'est ce qu'on nous répète,
mais c'est
beaucoup trop compliqué à mettre en place.
Mais c'est historique, l'instrumentalisation politique du sport.
Sûr.
Si on revient, les JO de Berlin en 36 sous Hitler, le boycott à Moscou des Américains et le boycott des Russes en 84 à Los Angeles, ça fait partie de l'histoire du sport, puisque le sport a souvent été le bras armé de d'État. Donc même si les valeurs du CIO qui sont la paix, le respect, la fraternité, le rassemblement des nations, là je vous lis des choses qui sont écrites dans les textes du CIO, hein. Le CIO qui interdit les manifestations politiques sur les podiums, mais on se souvient encore récemment aux Jeux de Sochi, ce 400 mètres féminin où deux coéquipières s'embrassent sur la bouche pour montrer la liberté, enfin en tout cas les violences contre les homosexuels en Russie, ou encore à Pékin avec beaucoup d'athlètes qui ont remis leurs médailles.
Pékin, c'était des jeux éminemment politiques.
Ils sont tous politiques. Mais si on le rapproche, en tout cas si on le remet dans notre contexte de notre époque aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la pression du public et des sponsors qui aujourd'hui recherchent quand même souvent la neutralité. On sait et on a entendu des sponsors qui sont prêts à sanctionner des dérapages politiques ou des prises de parole de certains sportifs. Donc on cherche à essayer de une forme de neutralité, mais dans les faits, je pense que c'est quasiment impossible que le sport puisse passer des
Fred
la politique.
Ouais, ce que je voulais dire, je rejoins complètement Sarah et Fred sur cette dimension politico-sportive, et surtout je pense que la meilleure école pour les jeunes athlètes de haut niveau sont les voyages à travers le sport de haut niveau pour comprendre la géopolitique.
Oui, quand tu vas dans les autres pays
avec cette notion d'équipe de France par exemple, tu découvres vraiment ce que c'est que la géopolitique, parce que c'est intimement lié. Sarah l'a bien dit, et il y a d'autres dimensions. Il y a aussi une politique sportive. Quand tu regardes en France les subventions par exemple pour accompagner des thématiques, le sport féminin ou le handicap, ou tout est politique, c'est-à-dire qu'il y a des grandes...
Oui, c'est
des
sûr
grandes...
que le soutien au dopage pour les équipes russes, t'as raison, c'est aussi une volonté étatique.
Évidemment qu'il y a plein de lectures différentes. Je vais aller au bout du truc. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, elle est politique.
Exactement.
L'écriture, les choix qu'il y a eu sur les personnes qui ont été mises ou non en lumière, tout est politique. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, Marc, Sarah l'a très bien démontré. Les Jeux Olympiques n'ont jamais permis d'avoir cette neutralité.
Et c'est ce qu'il faudrait aller.
Idéal de ce qu'il faudrait. En revanche, là où je te rejoins aussi, c'est qu'on est sur un équilibre très fragile. Et tu l'as bien expliqué justement, parce que vous êtes toujours en démonstration dans vos sports et vous avez avec ASO et vous avez avec le Tour de France cette culture d'essayer de le contrôler. Et je pense qu'il faut être très vigilant. Tu vois, je te donne juste un exemple. Quand, par exemple, Kylian Mbappé ou d'autres prennent la parole dans le cadre d'un capitanat des Bleus pour, tu vois, donner une dimension politique à un vote, moi, ça me met mal à l'aise. Parce que
ça lui a été reproché, je peux dire que dans les sondages de popularité, par exemple,
je suis pas dans une vision manichéenne, c'est bien ou mal. Je te dis que je suis en alerte de me dire, est-ce que voilà, je suis comme Marc le dit, il y a un équilibre qui est très fragile, et je pense que Sarah l'a bien dit, l'athlète a le droit, le champion a le droit d'incarner, comme Mohamed Ali, une dimension personnelle, d'un combat personnel en dehors de certaines choses. Par contre, il faut être vigilant sur ces équilibres-là, parce que la violence qui est potentielle derrière sur les prises de parole et sur des prises, entre guillemets, grosses guillemets, d'otages de certains événements est dangereuse.
C'est pour le coup, les grandes images du sport sont aussi affiliées à des grands moments politiques aussi. Hein. Je pense à Tommy Smith et John Carlos, souvenez-vous, à Mexico en 86, sur le 200 mètres, en 68, pardon. En plus, c'était une année, effectivement, où c'était un petit peu mouvementé partout dans le monde, mais avec ce point levé avec le gant noir pour parler de la ségrégation raciale qu'il y avait aux États-Unis, ça fait aussi partie des grandes photos d'histoire du sport. Donc
plus récemment, Colin Kaepernick, le genou à terre,
le joueur de football américain,
pour dénoncer Black Lives Matter. Et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, cette frontière entre le sport et la politique, elle est en train de se réduire, mais c'est un pot de chagrin.
Là où je pense qu'on est tous d'accord avec ce que tu as dit, Marc, tout à l'heure, c'est il faut avoir cette exigence de la neutralité, en fait, le plus possible, en sachant qu'elle est impossible. Vous êtes tous d'accord pour dire qu'elle est impossible.
C'est surtout que Marc qui explique, c'est qu'à un moment donné, il y a des mises en danger potentielles.
Qu'un athlète
incarne une prise de position personnelle pour défendre un point de vue, un gant sur une main, un genou au sol, qu'il soit seul dans le stade face au monde, il exprime quelque chose et ça, c'est sa responsabilité. Là, il y a des barrières qui ont été concédées, il y a des coureurs qui auraient pu tomber. C'est la limite, l'équilibre, il est là. C'est d'exprimer une pensée, c'est la liberté personnelle. Par contre, là où ça devient complexe, c'est que cette prise de position, de pouvoir sur une image pour montrer au monde, en gênant et en pouvant mettre en danger les athlètes et en mettant en danger aussi le fonctionnement de la compétition, c'est la grande limite du raisonnement, en fait.
Et qu'est-ce que tu penses, Fred Le Canut, de la petite jeune judokate Doria Bourzas, c'est ça, qui est en championnat d'Europe jeune, qui a refusé de serrer la main de son adversaire qui était israélienne? Qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui? Et elle porte les couleurs de l'équipe de France. Parce que ça, t'exprime pas que une position personnelle. C'est que tu portes le maillot de l'équipe de France.
Oui, mais c'est pour moi, c'est quand même une position personnelle. C'est elle qui détermine. Oui, c'est pas l'équipe de France qui lui impose ça. C'est elle qui détermine par rapport à ses valeurs.
Elle porte devant son nom. Il est marqué FRA, c'est-à-dire qu'elle porte le maillot de l'équipe de France.
Fred, en basket, t'as joué avec des joueurs de l'ex-Yougoslavie, par exemple.
J'ai joué avec un joueur serbe qui, évidemment, vous connaissez un peu l'historique avec la Croatie, qui portait un tatouage très polémique sur ce qui avait pu se passer dans cette guerre Serbie-Croatie. Et il se déplaçait jamais quand on jouait contre une équipe croate, parce que justement sa vie était en danger, parce que c'était tellement ça incarnait tellement ce qui s'était passé de mal entre dans cette guerre qu'il ne pouvait pas se déplacer. Et ça, c'est ses opinions personnelles, mais moi je peux comprendre que quelqu'un en face qui reçoit ce message là puisse être très en colère aussi. Donc je comprends le positionnement personnel, et on a le droit effectivement d'exprimer ce qu'on veut jusqu'à une certaine limite, jusqu'au fait où tu impliques ou tu fais du mal à d'autres.
Donc pour répondre, ce garçon, elle a des limites.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Sarah, à partir du moment où tu es en équipe de France, tu dois rentrer dans une certaine neutralité. Et quand tu es moi je le vois à l'intérieur de mon équipe cycliste, le message, il est très clair à nos coureurs et à nos encadrements. À partir du moment où tu t'exprimes sur une compétition, que tu es dans la tenue de l'équipe et que tu représentes l'équipe, tu dois rester dans une grande neutralité. Après, à titre personnel, une fois que tu es à la maison, sur ton expression personnelle, tu as le droit de penser et de réagir comme tu le souhaites. Mais à partir du moment où tu es couleur de ton équipe ou de ta nation, tu as un devoir de réserve.
Mais donc tu n'es plus citoyen à partir du moment où tu considères que quand il est sous l'égide de ton équipe, tu n'es plus un citoyen.
Le fait de ne pas s'exprimer ou de serrer la main de son adversaire, peu importe sa nationalité ou sa religion, ça veut pas dire que tu exprimes quelque chose. Je veux dire, c'est le sport et les règles, et en plus les règles d'un sport comme le judo aujourd'hui, on nous parle des codes. Enfin, je veux dire, il y a un moment. Il y a des choses qui sont pas cohérentes.
C'est peut-être un peu bisounours ce que je vais te dire, mais pour moi, les prises de position, elles doivent être faites dans le but d'améliorer le monde. Donc je peux pas cautionner. Donc ce que tu me dis là, l'adversaire a perdu. Donc, quand la Française se tourne, c'est pas dans le cadre où elle a été battue par une pénalité qu'elle aurait pu trouver injuste ou voilà. Dans le code qui nous régit, la règle, c'est qu'on doit saluer son adversaire. Mm-hmm. Elle l'a salué. Il y a marqué nulle part qu'on est dans l'obligation de serrer la main. Donc, t'es déjà dans une notion d'interprétation, si tu veux. Mais là où je te rejoins, c'est que au-delà de cette interprétation administrative, il faut être hyper vigilant, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour garder une neutralité absolue, pour faire avancer le monde dans le bon sens. Dans le bon sens. Et je te rejoins, heureusement, c'était un championnat junior. Quand on est junior, on doit encore progresser pour être senior. Et on ne progresse pas que techniquement, tactiquement et physiquement. On doit progresser aussi pour prendre pour comprendre que quand on représente l'équipe de France, on doit le faire avec tout ce que ça représente d'exemplarité.
Et c'est un sujet d'une grande complexité. Et d'ailleurs, on en parle aussi dans le vestiaire du PSG, par exemple, avec Zabarny et Safonov, l'Ukrainien, le Russe. Comment gérer ça? Le sport peut-il céder à la politique? C'est une question un peu large qu'on a posée par rapport à ce qui se passe sur la Vuelta et les manifestations autour du conflit israélo-palestinien. C'était passionnant de vous écouter. Évidemment, on pourra en faire une émission de 3 heures, pour le coup. Et certainement qu'on continuera d'en parler. On revient dans quelques instants. Tiens, on va redescendre sur le terrain vraiment sportif avec le Captain Weiss qui va nous défendre l'équipe de France de basket dans son cœur.
Voilà, est-ce qu'il y a besoin de défendre?
Non, il n'y a pas à défendre, mais c'est un cri du cœur.
Voilà, dans ça a envie de montrer mon amour.
C'est bien mieux. Je suis un énorme.
À tout de suite sur RMC. Pas de neutralité. On va avoir des prises de position. Là. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
On revient sur le terrain du sport avec vos grandes gueules, Marc Madio, Fred Weiss, Fred Le Canu, Sarah Pitkowski. Ah, ça continue de parler pendant la pub, je peux vous dire, parce que le sujet est passionnant, que l'on va avoir il y a quelques instants sur la politique et le sport. Dans un instant, on va remonter le temps avec vos GG, on va parler Formule 1, tiens. Si je vous dis accélère, vous allez forcément avoir la référence à la nostalgie à laquelle on va faire appel dans quelques instants. Mais d'abord, Fred Weiss prend les commandes de l'émission.
RMC, Captain Weiss met le brassard.
C'est une victoire d'avoir son jingle, non?
Ah ouais, mais là, c'est bon. Accomplissement ultime.
Lumière dans les yeux de Captain Weiss.
Je touche au divin, là, vraiment. Ouais,
je vous préviens, on en a pour tout. Hein, Captain Madio, Captain Pitko, Captain Le Canu.
Captain Le Canu, peut-être pas.
Toi, t'es du côté du divin et moi, je t'écoute, je suis du côté du divan.
Excusez-moi, c'est trop élevé.
Ça n'arrête pas en tout.
Je vais redescendre un peu. Je vous rappelle qu'un Captain prend le brassard, ça veut dire qu'une des GG décide d'avoir quelque chose qu'elle veut défendre absolument dans l'émission et donc. Elle va faire sa causerie. Aujourd'hui, l'équipe de France de basket joue son 8e de finale à l'Euro face à la Géorgie, mon cher Fred, 14h15. Exactement. Sur RMC. On sera sur place avec Philippe Gabory et Stephen Brun à Riga. Fred, tu veux nous défendre absolument cette équipe de France?
Oui, je veux parler de cette équipe de France parce que cette équipe de France m'a enthousiasmé. Je suis tombé amoureux de cette équipe de France. Vous vous rappelez cette équipe de France où il manque tellement de joueurs? Evan Fournier, Nicolas Batum, Nando De Colo, Wembanyama, Rudy Gobert. Oh. Et là, on se dit, c'est plus une équipe de France. C'est une équipe
sélection régionale.
C'est une sélection, alors peut-être pas, mais en tout cas,
souffrance.
C'est l'équipe B, C de France. Et ben non, on a une vraie équipe. Parce que déjà, on a changé de coach. On avait Vincent Collet qui a été performant, ultra performant avec cette équipe de France. Et on a un Freddy Fautou qui est arrivé pour le remplacer. Quelqu'un de charismatique, qui a de l'énergie, qui a de l'envie, et qui surtout, passe juste après une légende du coaching qui est Vincent Collet. Donc déjà, pour lui, c'est pas évident. Et il nous a montré déjà plein de belles choses. Il a créé une vraie équipe avec cette équipe de France. On parle, par exemple, de Gershon Yabusele, celui qui, vous rappelez, celui qui a dunké sur LeBron James. Tout le monde se rappelle de Gershon, qui est devenu capitaine, qui a une attitude extraordinaire. Il y a plein de jeunes. Zachary Rizaché, vous savez, le fils de Stéphane Rizaché.
T'as joué avec lui, avec son père.
Exactement, exactement.
Objectif.
Zachary Rizaché, qui est l'ancien numéro 1 de la draft en 2024. Donc, un joueur extraordinaire lui aussi. Et en plus, on accumule les pépins. On a un Vincent Poirier qui s'est blessé en préparation. On a Alex Sarr qui s'est blessé aussi pendant 7 euros. Et malgré ça, on continue à faire notre taf. Alors oui, certains diront, on a perdu contre Israël parce qu'on a déjoué, parce qu'on n'a pas réussi à attaquer une zone. Oui, mais ce qui s'est passé après, battre la Pologne en Pologne, s'imposer comme on l'a fait, montrer des choses aussi belles, de la course, de l'envie, de l'énergie. Et surtout, le vivier de cette équipe de France. On a des joueurs de partout. Vous connaissiez Sylvain Francisco ? Alors oui, moi je le connaissais, mais vous qui n'êtes pas du basket, Sylvain Francisco a marqué 32 points contre la Slovénie, un joueur fantastique. Donc moi, l'envie,
bah c'est bon, l'énergie, on a plus besoin des joueurs NBA.
Et mais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un vivier incroyable. Il faut se rendre compte quand même que l'Espagne, dans cet Euro, a été sortie. Ils ne verront pas les huitièmes de finale. On parle d'une nouvelle génération en Espagne. Nous aussi, on a une nouvelle génération. Et malgré ça, on est en huitièmes. On va affronter la Géorgie. Et si on passe, grâce à la Finlande, qui a éliminé la Serbie, on va les affronter. On devrait affronter la Finlande dans la foulée. Donc, notre voie est royale jusqu'aux demi-finales. Maintenant, il va falloir le montrer. En tous les cas, cette équipe m'enthousiasme. Il y a de l'énergie, il y a de l'envie. Il y a tout ce qu'il faut. On adore ça.
Oh là là. Et franchement,
On a hâte de voir le match. Hein.
Je vous préviens,
on a envie d'y être.
On aura bientôt plus de Premier ministre. Attention que ça ne devienne pas Fred Weiss, hein. Le nouveau chef du gouvernement. Captain Weiss, avec beaucoup de conviction, là, nous a clamé son amour à ses bleus, sans star NBA, qui effectivement arrive à faire de sacrées performances sur cet Eurobasket. Est-ce que vous avez été d'abord convaincu, tiens, on va faire un tour de table par Captain Weiss, Marc?
Non, j'ai été convaincu, mais j'ai quand même envie de te titiller.
Ah. Bah, je suis prêt. Tu sais que je suis prêt, Marc.
Là, tu nous parles d'euro et tu t'enthousiasmes à juste titre pour cette équipe de France, mais tu nous parles d'euro et où il n'y a pas les meilleurs joueurs français et les joueurs de NBA sont assez absents. Donc, est-ce qu'on est encore dans un véritable championnat d'Europe ?
On est dans un championnat d'Europe. Il y a d'autres joueurs qui ne sont pas là non plus. On a Wembanyama qui soigne une blessure, donc qui revient juste. Rudy Gobert qui a besoin parce qu'il y a des problèmes familiaux très importants.
Et dans les autres équipes, moi.
Et dans les autres équipes, il y a des joueurs très, très intéressants. D'ailleurs, on parlait de la Finlande. Lauri Markkanen est un joueur fantastique de NBA et en Europe. Il y a Giannis Antetokounmpo. Quand on a affronté la Slovénie, il y avait Luka Doncic. Donc il y a quelques joueurs NBA quand même très intéressants.
Ouais, bon. Fred Le Canu, moi j'ai convaincu par Captain Weiss.
Ouais, je suis super convaincu. J'ai regardé, j'ai admiré le match face à la Pologne. Et j'aime ces matchs parce que
la Pologne à domicile, hein.
À domicile, la Pologne.
Qu'il fallait gagner en réaction justement à la défaite contre Israël.
Ça, c'est des moments clés dans des carrières. C'est des moments clés aussi pour faire des groupes, pour créer des énergies collectives. Moi, je voudrais te poser une petite question par rapport à la Géorgie, puisque comme tu le sais, en judo, la Géorgie est championne du monde par équipe mixte. C'est une énorme culture de combattants, de guerriers qui vont aller au bout. Alors, est-ce que il y a ce transfert-là du côté des Géorgiens en basket, ou est-ce qu'on est dans un monde complètement différent ?
Non, il y a un peu cette culture-là. En plus, ils sont grands et costauds, ce qui nous pose problème justement, parce que je l'ai expliqué, il manque beaucoup de joueurs intérieurs chez nous, et on a Alex Sarr qui s'est blessé, donc on se retrouve avec un seul pivot de métier, donc des mecs de mon gabarit, des grands costauds qui tapent les autres, et on a des joueurs très intéressants de l'autre côté, joueurs NBA, Goga Bitadze qui joue à Orlando, qui est très intéressant forcément, Mamou Kelashvili qui a été le coéquipier de Victor Wembanyama aux Spurs, qui maintenant est à Toronto, donc autre joueur NBA, Toko Shengeli qui est un joueur d'Euroleague référencé, ultra référencé. Donc voilà, il y a quand même de la matière en face. C'est moins talentueux, leur banc est plus faible que le nôtre.
T'as de la matière dans l'engagement, dans l'énergie. Par contre, il y a un banc qui est léger. Donc ça veut dire que si ça se fatigue vite, la France va prendre le relais derrière.
Notre option contre eux, c'est de courir au maximum justement pour les épuiser, parce que comme ils sont grands, ils se fatiguent plus vite. Et en plus, effectivement, tu le soulignes à juste titre, leur banc est plus réduit que le nôtre. En courant, on devrait pouvoir passer.
Sur le WhatsApp, RMC 06 12 424 424, il y a un message de Hugo. Salut les GG, masterclass de Captain Weiss aujourd'hui. Bravo. Sarah, qu'est-ce que t'as pensé du capitaine ?
En fait, j'étais déjà convaincue. En tout cas, je faisais déjà confiance à cette nouvelle équipe de France, parce qu'avant leur défaite contre Israël, si je me trompe pas.
Tu ne te trompes pas, Sarah.
Ils étaient à 100% de victoire avec Frédéric Fautou, non ? Cette équipe de France.
Oui, mais sur beaucoup de matchs amicaux et.
Oui, mais ça compte un peu moins, mais il n'avait pas tous ses bons joueurs aussi. Il était déjà en train de la construire. Il était déjà en train de la construire, cette équipe. Convaincu, je sais pas, on est quand même vice-champion olympique, on a une histoire avec le basket en France. Je trouve que ce championnat d'Europe tombe à point nommé pour faire rentrer des nouveaux jeunes joueurs, de remplacer ceux qui ne sont plus venus. Les absents ont toujours tort. Donc moi j'étais déjà convaincue et Fred me donne encore plus envie de suivre cette équipe de France, surtout sur ce France-Géorgie. Et puis de l'autre côté, la Serbie a perdu perdu. Et alors,
oui,
ça
Fred,
ouvre un petit peu le tableau. Ouais. Donc
on,
voilà.
C'est, on est presque favori, Fred, maintenant. Du coup.
Non,
presque.
Non,
alors, y a, si, oui, est-ce qu'on peut dire qu'on est presque favori?
Non. Déjà, il faut battre la Géorgie. On l'a dit, c'est très fort physiquement. Ensuite, la Finlande a battu la Serbie, donc c'est quand même pas une équipe à prendre à la légère. Avec notamment
Laurie Markkanen. Il n'y a plus d'Espagne, il n'y a plus de Serbie. Enfin, il y a quand même des. Ça se dégage.
Pour l'Europe, c'est un échec.
Non, il reste l'Allemagne et il reste la Turquie, qui sont deux équipes qui jouent très, très bien au basket.
Tiens, d'ailleurs, je fais exprès de mettre la pression parce que le sujet du vestiaire, dans quelques instants, ce sera comment gérer le poids des attentes. Et le média, on est parfois un peu responsable de tout ce qui se passe.
Pas du tout.
France-Géorgie, 14h15, 8e de finale de l'Eurobasket. C'est à Riga et ce sera commenté sur RMC Sport, sur RMC par Félix Gabory et Stephen Brun. Tiens, Félix est avec nous. Salut Félix.
Salut tout le monde.
Bon bah raconte-nous un peu, t'es sur place, dans quel état d'esprit les Bleus vont aborder ce 8e de finale?
Déjà un petit big up à Fred, parce que Fred, tu m'as embarqué là. J'ai envie d'aller à la gare avec toi. Il est bon ce Fred, ça fait plaisir de voir que t'es amoureux de cette équipe de France. Et non mais les Bleus, on les a croisés du coup hier. Il y avait un point presse organisé à leur hôtel. On a pu discuter avec pas mal de joueurs et avec Frédéric Fautoux, le sélectionneur. Et le mot d'ordre qui régnait, c'était vraiment de faire attention, de ne pas s'enflammer, parce que oui, on est favori contre la Géorgie, évidemment, ça on peut pas le nier. Mais ils ont très peur au match piège, nos Français, parce que hier, pile au moment où on pouvait discuter avec les joueurs de l'équipe de France, il y avait la Turquie qui s'était fait très peur contre la Suède. Les Turcs, Fred l'a dit, qui font partie des favoris, mais qui s'en sont sortis juste en fin de match contre les Suédois. Il y avait l'Allemagne qui était un peu en train de galérer aussi dans son match contre le Portugal avant de dérouler en deuxième mi-temps. Donc voilà, ils avaient tous conscience que même si tu as ton statut de favori, il faut faire très très attention. Et ça, c'était avant l'énorme surprise, la déflagration du soir avec la défaite de la Serbie contre la Finlande. Donc voilà, je pense que avec tous ces avertissements, nos Bleus, ils ont parfaitement conscience qu'il va falloir mettre les ingrédients nécessaires pour battre cette équipe de Géorgie. Fred a parfaitement listé les forces de cette équipe géorgienne avec les deux stars, Bitadze, Mamukelashvili, une équipe de Géorgie qui a battu l'Espagne en poule. Donc c'est cette équipe de Géorgie qui a notamment précipité la chute de l'Espagne dès la phase de groupe. Et évidemment, on en a parlé aussi, il y avait la leçon du match contre Israël, où on était favori contre Israël et on a complètement perdu pied, on a perdu le fil de cette rencontre. Donc tous ces ingrédients font que là, les Bleus, ils sont focus et ils veulent à tout prix éviter la sortie de route, quoi.
Formidable, on va suivre tout ça avec vous. Donc Félix, sur place à Riga, tu seras avec Stephen Brun, 14h15, pour nous faire vivre ce France-Géorgie en direct sur RMC. Captain Veil s'est convaincu, je vois sur le WhatsApp Zolive qui nous dit « Je ne suis pas basket, mais maintenant j'ai envie de voir le match ». Bravo Captain Fred, nous dit Christian, tu as tout dit. Franchement, il n'y a que des messages positifs, Fred. Hein. Je ne fais pas mon politique, hein, même si la politique dans le sport.
Dans le sport, ça peut.
Tu sais, bon. Dans quelques instants, on va remonter le temps à les GG. Mais d'abord, tiens, je voulais vous donner une information. Communiqué du Paris Saint-Germain à l'instant. C'est important. On parlait tout à l'heure du sujet des blessures de Dembélé, de Désiré Doué. Communiqué du PSG qui appelle à la mise en place d'un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre club et sélection nationale. Après la confirmation des blessures de Dembélé et Doué, le PSG appelle urgemment à un nouveau protocole. Les faits récemment survenus, graves et évitables, doivent donner lieu à des mesures correctives rapides et immédiates. C'est quand même un communiqué assez clair du Paris Saint-Germain après ce qui s'est passé en équipe de France. Hein. Le plus grand club actuel en France qui fait un communiqué pour dire ce qui se passe avec les Bleus. Je pense que c'est un sujet dont on va beaucoup parler dans toutes les émissions de football aujourd'hui sur RMC et la semaine qui arrive. Allez, on revient dans quelques instants. Les GG remontent le temps sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Avec Fred Weiss, Sarah Pitkowski, Fred Le Canu et Marc Madio. On va essayer de remonter le temps dans quelques instants, mais je vous le disais, hein, quand même, l'information importante qui vient de tomber, c'est ce communiqué du Paris Saint-Germain. Vous savez que ça chauffe, le PSG furieux après les blessures d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. On parle de 8 semaines pour Dembélé, 6 semaines pour Désiré Doué. Donc il y a des matchs importants de Ligue des Champions qui vont être ratés. Communiqué du PSG il y a quelques instants. Le PSG appelle à la mise en place d'un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre club et sélection. Il appelle À cela, urgemment, les faits récemment survenus, graves et évitables, doivent donner lieu à des mesures correctives rapides et immédiates, donc pour que le dialogue soit différent entre le club et les sélections nationales. On en parle quand même un petit peu, Marc. Ça te fait réagir, cette réaction parisienne?
Oui, la réaction parisienne est logique par rapport à une situation où ils sont employeurs et on est dans une mise à disposition d'un athlète ou d'un joueur auprès d'une sélection nationale. Et pour le vivre notamment en cyclisme, c'est toujours des moments assez complexes, notamment en termes de responsabilité, en termes d'assurance. Et là, on touche du doigt ce qui se passe aujourd'hui dans le football. Et la mise en place de règles claires, nettes et précises entre fédération et club, d'autant plus quand on est face à des joueurs qui ont des contrats extrêmement importants, on est dans l'obligation de régir et de réguler ces situations. Quand un joueur est mis à disposition de la sélection nationale, on devrait être en capacité d'avoir un check-up en amont de la prise en sélection du joueur, parce que là on s'aperçoit que Dembélé était à la fois rétabli sans être véritablement rétabli et au bout de 4 ballons il se blesse en sélection. On voit bien qu'il y a eu une zone grise entre la fédération et le club et le joueur, parce qu'on incrimine ou la fédération ou le club, mais il y a aussi une part importante dans la responsabilité du joueur. Le joueur doit être aussi en capacité de dire je fais l'impasse, et doit être en capacité de dire je ne suis pas totalement apte à jouer, combien même on est en équipe de France.
Non mais c'est Fred Le Canu.
Ouais, je réfléchis à ce que tu dis, Marc, parce que tu dis il a été rétabli sans être vraiment rétabli. La blessure de Dembélé, elle est côté droit.
Oui, bien
il
sûr.
Il était blessé à gauche.
Oui, mais tu sais,
on en a parlé hier.
Non, mais ça peut être une compensation.
C'est ce que je suis en train de te dire. C'est une compensation, c'est difficile de dire qu'il est rétabli sans être rétabli, parce que c'est pas re-blessure sur le même organisme. C'est une compensation qui vient parce que justement il s'est appuyé sur le côté droit. Toi, c'est là où ça devient compliqué. Et cette notion de responsabilité, déjà dans la blessure, est-ce qu'il se blesse à droite parce qu'il était blessé à gauche? Après, tu dis, est-ce qu'il se blesse là parce qu'avant il a joué au PSG tous les matchs, et est-ce que du coup c'est en équipe de France qu'il se blesse parce qu'il est fatigué du PSG?
Juste un historique, parce que Dembélé, quand même,
c'est extrêmement compliqué d'isoler la responsabilité.
On est en arrêt de travail, il y a un problème d'assurance.
Et je rappelle, c'est effectivement un sujet ça, mais je rappelle aussi pour contextualiser que la dernière fois que Ousmane Dembélé s'est blessé, c'était également en sélection, après la finale de la Ligue des Champions, souvenez-vous, c'était sur la Ligue des Nations face à l'Espagne, et ça lui avait fait manquer les premiers matchs de la Coupe du Monde des clubs. Et déjà à ce moment-là, il y avait une tension visiblement entre le PSG, qui estimait de ne pas avoir eu suffisamment d'informations, peut-être avec le staff médical du Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'en fait on s'appuie sur un passif là, hein. C'est pour ça que le PSG aujourd'hui décide de montrer les muscles en fait face à l'équipe de France, en tout cas de montrer quelque chose.
Ce que font d'autres clubs.
Ouais, mais quand même, c'est assez rare qu'on ait un communiqué. Franchement, Fred, d'habitude, ce sont on se souvient d'Arsène Wenger à l'époque, entraîneur d'Arsenal, qui laissait passer des messages dans les conférences de presse. Mais là, qu'on ait carrément un communiqué de presse du Paris Saint-Germain pour, en gros, appeler à ce que les choses changent avec l'équipe de France.
Non, mais en fait, qu'est-ce qui devrait changer?
Tu perds ton ballon d'or. Potentiel, donc forcément pour le PSG, même s'il y a un problème d'assurance.
Ils disent que ça va pas avoir d'incidence sur le choix du ballon d'or.
Non, mais ça a aucun rapport à ce que je viens de dire, Sarah. Ce que je veux dire, c'est que tu le perds en tant que joueur, donc c'est-à-dire que tu peux plus le mettre.
T'en perds deux en fait. Tu perds Doué et Dembélé.
Ne sortait pas de blessure et c'est un contexte un peu différent. Je pense que leur principal problème c'est Dembélé, mais moi j'ai du mal à comprendre la situation quand même, parce que d'un côté le PSG est en train de montrer les muscles en disant il doit se reposer. Vous avez prévenu qu'il était fatigué, etc. Sauf qu'ils le font jouer contre Toulouse.
Ils ont envoyé un courrier pour prévenir effectivement de la fatigue musculaire et des risques. En ne disant pas qu'ils étaient blessés. Hein,
mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi tu fais jouer ces joueurs si soi-disant ils sont fatigués, blessés contre Toulouse? T'es censé avoir de la marge suffisante pour faire tourner ton effectif. T'es censé avoir la marge suffisante pour permettre de se reposer à des stars comme Dembélé. Moi, à un moment, je comprends le PSG qui soit gêné, parce que quand tu perds un joueur, et dans le cas de figure 2 de ce calibre, c'est gênant. Mais à un moment, ça fait partie du jeu. Et les clubs ont toujours ce discours. Alors, on en a marre qu'ils aient une équipe de France. Sauf qu'ils sont chez toi, pourquoi? parce qu'ils sont en équipe de France. Donc à un moment, c'est le serpent qui se mord la queue, et malheureusement, c'est un impondérable aller en équipe de France, et il était apte. Et il l'a joué. Et effectivement, on ne pourra jamais déterminer si c'est à cause de sa principale blessure qu'il s'est blessé, parce que son historique ou parce que le nombre de matchs joués par le PSG est énorme.
Je comprends le PSG. Oui. Moi, je pense qu'il y a quand même. Alors, je ne suis pas au fait des contrats de mise à disposition entre le club et la sélection nationale, mais je pense que le PSG insiste sur ce point et sur ce sujet. Ils veulent de la clarté et une situation saine et claire pour tout le monde en termes de mise à disposition du joueur. Je pense que là, on est sur un sujet extrêmement sensible, notamment par rapport aux blessures, et qui couvre les assurances derrière ? Qui assume la situation ? Est-ce que c'est la sélection ou est-ce que c'est le club qui a mis à disposition
le
joueur ?
Est-ce que tu crois que c'est le problème de l'assurance ? Là, c'est l'indisponibilité de Dembélé c'est sur les matchs de Ligue 1. Aujourd'hui, ce qui enquiquine tout le monde, on va pas se mentir, c'est les prochains matchs de Ligue des Champions face au Barça et face au Bayern. Parce que sinon, en Ligue 1,
il y aura le match face à l'OM quand même, hein, dans quelques
jours. Oui, il y a match à l'OM, mais là, on est sur ce qu'on disait, c'est un classique, mais ce qui est gênant pour le PSG aujourd'hui, c'est ne pas avoir son meilleur attaquant sur les deux premières grosses confrontations de Ligue des Champions dans une poule qui est quand même loin d'être évident.
Ce qui surtout est gênant pour le PSG, je pense, c'est que c'est un sujet de tension, on le sait, pour Luis Enrique et son staff, de faire attention, justement, aller au millimètre la blessure, gérer les temps de récupération aux États-Unis.
Ils n'ont pas eu le temps de récup.
Ils donnaient des jours de repos, tout le temps, des plages de repos très importantes l'après-midi, donc il y avait vraiment une réflexion scientifique poussée pour que les joueurs ne se blessent pas. Donc, on en arrive là.
Exactement. Et là où le message il est clair, c'est qu'il y a une meilleure harmonie entre les deux univers. Et il faut qu'il y ait meilleure harmonie parce que la suite, c'est quoi? Si je te prends le prisme des Jeux Olympiques, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La majorité des clubs ont refusé de mettre à disposition des joueurs pour faire les Jeux. Et c'est ce qui pend au nez de la suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu laisses le club décider ou pas, systématiquement, ils vont vouloir le protéger. Et il n'y aura plus de joueurs de club dans les équipes de France.
C'est un autre débat qu'on se posera simplement dans les grandes solutions du sport. L'avenir du foot des sélections, alors que les clubs avancent de plus en plus dans le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur les sélections nationales. Aujourd'hui, on a ouvert plein de prochains sujets pour les grandes gueules du sport. Oui, mais c'est très bien. Comme ça, on va avoir une belle saison.
Aussi des assurances.
Oh là là là, c'est parfait. Vous notez tout ça dans un tableau là,
et on va
faire les émissions. Allez, la dernière heure des grandes gueules du sport arrive dans quelques instants. On va ouvrir le vestiaire. Comment justement gérer le poids des attentes? C'est la question qu'on va se poser cette semaine. Et puis il y aura également les jugés sur le buzzer, la Formule 1 et les jeux tout à l'heure. On n'a pas remonté le temps aujourd'hui avec les GG, mais l'actualité évidemment nous a obligés à parler des relations entre le PSG et l'équipe de France. On revient dans quelques instants sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.